Eh bien, on vient de m'annoncer que nous sommes en liaison maintenant avec Mande. À vous, Mande.
La fin des notables en Lozère.
Nous avons compris, d'un bout à l'autre de notre pays, qu'il fallait apporter à ce que nous étions hier un changement profond dans toute notre activité. Tout le monde le sait, vous le savez en Lozère.
En Lozère, le rôle de notable n'a jamais été vraiment enviable. Comme ailleurs, il faut de l'abordage, de l'avenance, ça s'apprend. Mais l'endurance aussi est indispensable. Les routes sont si difficiles, les distances si grandes qu'il faut passer en voiture entre Langogne et Meroès, le temps qu'un député des Français de l'étranger consacre à l'avion entre New York et Ottawa. L'éligibilité n'a longtemps concerné qu'un cercle étroit d'héritiers qui se transmettaient avec le plus grand soin les biens de la terre. C'étaient les maîtres de granit. Aux nobles et aux propriétaires vivant noblement, c'étaient adjoints les notaires et les hommes de loi. Et les médecins, les électeurs disaient « Docteur, vous devriez songer à vous présenter. Avec vous, nous serons bien soignés. » Le docteur Jacques Blanc a été le dernier avatar de ce système. En bas, à Montpellier, on le surnommait le Rambo des montagnes. « Alors, tu descends de ta Lozère ?» se moquait Georges Frêche. En tout cas, il a collectionné longtemps à peu près toutes les présidences, y compris celle de la région Languedoc-Roussillon. Mais c'était à la fin du millénaire précédent. Depuis, la notabilité s'est dissoute avec une rapidité inouïe. Est-ce l'effet du faible nombre de postes disponibles? 26 conseillers départementaux, un seul sénateur, un seul député depuis 2012. Les élus se sont quasi interdits d'eux-mêmes le cumul. Parallèlement, le nombre des éligibles s'est élargi. Les élections étaient prévisibles, elles ne le sont plus. Celle de dimanche, par exemple, est très ouverte et radicalement différente des cantonales de 2015 qui avaient, à la surprise générale, amené une majorité de gauche à la tête du département. La Lozère, longtemps conservatrice, a été pionnière dans l'art de passer de la simple alternance au renouvellement général.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie d'Yves Pourchet, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Troisième édition complètement renouvelée, parce que tout change vite, même en Lozère maintenant, chez Talendier, de vos maîtres de granit. S'il faut une troisième édition, c'est que ça change, ou c'est que ce qui concerne la Lozère peut valoir ailleurs et intéresser au-delà. J'ai eu quand même beaucoup de difficultés au bureau, j'ai même piqué une crise vendredi, parce que personne ne savait où situer la Lozère. Alors on me disait, mais non, là tu cherches des documents, la tuile au loup par exemple, c'est dans le Massif central. Ou alors, on m'expliquait, mais c'est différent de l'Hérault, parce que j'ai un document sur les viticulteurs au doigt qui est répertorié comme étant lozérien. Il n'y a pas que les Français qui ne sont pas des amateurs de Lozère, qui connaissent pas le département, mais les opérateurs téléphoniques non plus.
Oui, d'ailleurs, c'est une grande difficulté, parce qu'effectivement, ce qui était de l'ordre de l'aménagement du territoire est aujourd'hui mal défini. Et la réception, par exemple, des portables, y compris Internet, est devenue dans certains lieux très difficile, ce qui gêne beaucoup les habitants de...
Madame Chabouri aurait voulu que nous lui téléphonions ce matin, parce qu'elle se plaignait du fait que les notables de Lozère ne voulaient pas, selon elle, installer un refuge pour animaux. Mais son portable ne passait pas, et elle n'a pas d'accès Internet. Et quand le conseil départemental permet un accès Internet, j'ai noté ça, enfin il me semble que je ne me trompe pas, mais l'accès au site destiné aux moins de 18 ans est peut-être limité. Mais enfin, c'est à vérifier, c'est un effet de ce qu'on appelle l'hyper-ruralité en Lozère. Du coup, la Lozère, c'est devenu une sorte de matière imaginaire, non?
C'est devenu un pays, oui, totalement imaginaire. Où on en a fait une réserve naturelle, un pays du loup, un pays de paysage. Mmh. Mais en vérité, on oublie quand même qu'il y a des hommes qui vivent là, des hommes qui ont envie d'y travailler, qui ont envie de construire quelque chose. Quoi.
Ici, il faut lire entre les routes. Il faut surtout écouter le fouet invisible. Le fouet fantôme qui use à Lozère, à 140 km/h, le vent. Il courbe les croix. Il n'a pas encore pu souffler les hommes. Les hommes se sont accrochés dans le granit ou la craie, entre le vent et le silence. Des bouquets d'hommes, avec de longues racines, qui soutiennent mal la vie. Les gens de Lozère se nomment d'abord les Gabales, synonyme de Gaulois. Nés de la pierre, ils sont faits pour résister. Ils affrontent Jules César à Alésia. Et Louis XIV mettra 5 ans à réduire les révoltés protestants des Cévennes, les Camisards, qui se battaient en blouse grise, du gris lointain des moutons qui déferlent par milliers et milliers depuis l'âge de pierre. Les pas des bêtes, les pas des bergers, ont creusé les drailles, ces longs chemins de transhumance dont les légions romaines ont fait des routes. Le fer des cloches survit au fer des conquérants. L'antique alliance de la laine et du brouillard, du berger et du roc, n'est pas encore morte.
La laine et le brouillard. Oui, c'est une matière imaginaire, comme on dit, matière au sens d'aliment pour la fiction, d'énergie pour l'imaginaire. D'ailleurs, je vous ai pas présenté comme un historien, un spécialiste de sciences politiques qui enseigne à Toulouse, mais votre œuvre de fiction, Yves Fourcher, elle est largement alimentée par la Lozère.
Oui, elle ressurgit partout, parce que de toute façon, c'est mon pays, c'est ma terre, voilà, c'est mon éducation. Et d'ailleurs, je dis pas que quand je rêve, je pense à la Lozère, mais en tout cas, elle est toujours là.
Ce film dont on a passé un extrait, il est signé Mario Ruspoli, mais c'est des princes italiens, ça.
Alors, c'est des princes italiens, mais une descendante des Chambrun, Marthe, avait épousé un prince Ruspoli. Et donc, Mario Ruspoli est revenu sur la terre de sa mère.
Alors, Chambrun, c'est un nom important parmi les maîtres de granit. On va l'entendre régulièrement dans cette émission. Notabilité, puisque c'est notre sujet, passe par la ritualité. Alors la ritualité, ça peut être la foire, avec ses courtiers, ses maquignons qui vendent aussi de l'élection en même temps que des bœufs,
oui,
ou des moutons.
C'est-à-dire que tout circulait. Et au moment du suffrage universel, les gens ont investi les champs de foire parce qu'il était aussi un marché aux voix. Et c'est ce qui s'est transformé. Et là-dedans, il y avait des hommes qui étaient plus habiles que d'autres et qui arrivaient en même temps qu'en faisant des affaires, à tracter ou à attirer les suffrages.
Au XIXe siècle, il y a un personnage étonnant qui s'appelle Paulin Daudet, qui est un maître de la réunion publique et aussi du café, de la discussion en français ou en Languedoc.
Voilà, parce que le suffrage universel a eu ce talent ou cette possibilité de faire apparaître des personnages absolument nouveaux. D'abord, ils avaient des physiques, ils savaient non seulement parler, ils parlaient en français et en occitan, mais aussi salver, récompenser, boire, partager. Et donc il y avait cette convivialité, ce qui fait bien comprendre que le politique passe, bien entendu, par ce savoir-faire pratique, s'adresser à des paysans.
Quand vous avez suivi, on en parlera, des campagnes électorales, vous voyiez les notables se jeter vers les cafés dès qu'ils étaient pleins.
Ah ben, immédiatement, c'est-à-dire qu'on arrivait dans la salle de mairie. Bon, il y avait le laïus électoral, la présentation, le discours un peu national, et puis immédiatement c'était coupé, ils disaient « bon, on va continuer ». Et on allait dans les cafés.
Et parfois, quand il y avait beaucoup de monde, c'est qu'il y avait un enterrement.
Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'élu n'avait pas compris, il voyait du monde, il courait vite dans la maison, on lui disait bah, « écoutez, excusez-moi, mais c'est un enterrement ».
Mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu de politique. D'ailleurs, souvent dans les discussions, on le dit en occitan, c'est « vous nous faisiez un petit peu de politique ». Ceci ne vient pas de Lozère, mais s'accorde parfaitement avec la Lozère du XIXe siècle. C'est une réunion électorale croquée dans sa pièce « Le candidat » par Flaubert.
En séance!
Allez, en séance!
Messieurs, nous avons à discuter les mérites de nos deux candidats pour les élections de dimanche. Aujourd'hui, vous vous occuperez de l'honorable monsieur Rousselin. Demain soir, de l'honorable monsieur Gruchet. La séance est ouverte!
Tout à l'heure, je répondrai sur le chapitre de l'agriculture.
Qu'est-ce que vous pensez des hannetons?
Alors, un peu de gravité, messieurs.
Je demande que le candidat nous parle des chemins de fer.
Oui.
Si on avait dit du temps de Charlemagne ou même de Louis XIV qu'un jour viendrait ou en 3 heures, il serait possible d'aller...
Non, c'est pas ça.
Comment ne serait-ce pas pour le développement de ces gigantesques entreprises qui remuent des capitaux, prouvent le génie de l'homme, apportent le bien-être au sein des populations.
Pas vrai, les ruines.
Bon, on ne parlera pas du repli du chemin de fer, mais au moment de l'implantation du chemin de fer en Lozère, vous avez vu tel ou tel des notables, des grandes familles, mettre la main à la poche même, pour payer les études préparatoires des chemins de fer.
Mais non seulement ils contribuent au développement, mais aussi ils participent au choix, au tracé des lignes, qui sont très, très importants. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fera... qui continuera, c'est-à-dire où va-t-on, où construit-on l'autoroute, par exemple. Ça a été un vrai débat qui a intéressé le pays jusqu'à nos jours.
Et Clermont-Ferrand-Béziers.
Voilà, donc évidemment, c'est passé à côté de la Canourgue, ça aurait pu passer.
La Canourgue, retenez le nom, le docteur Blanc, on l'a déjà prononcé. Mais on va insister plutôt sur le nom de Chambrun, c'était lui qui mettait la main à la poche pour financer les études de chemin de fer. Le clergé, dans la Haute Lozère, au centre et au nord de la Lozère, a eu toujours beaucoup d'importance. Voici ce qu'on lisait, mais c'était en occitan. Mais vous avez donné une traduction française dans Les Maîtres de Granit, dans la Croix de la Lozère, journal très important. Depuis qu'il est député, il a toujours été pour les bonnes écoles et pour la religion. Il a demandé qu'on envoie aux pignes toute la ribambelle d'employés unitines qui nous ruinent. Il a voté tout l'argent nécessaire pour que les soldats soient bien nourris. Finissez-le en occitan.
Vive Monsieur de Chambrun, au Cataloukiu, à Maïdoun. Ce qui veut dire vive Monsieur de Chambrun qui a couvert le cul à plus d'un.
Alors, les Chambruns. Grande propriété terrienne, transmission assurée, oui. Alliance avec des familles importantes. On a parlé des Ruspoli, par exemple, tout à l'heure.
Alors, évidemment, ils étaient installés à Montroda et puis à Marvejols. Ils avaient ce château de carrière qui était très important, plus le château de l'Impérie. Et en même temps, ils ont des alliances internationales. C'est-à-dire, le premier qui arrive, c'est Aldebert de Chambrun, qui a épousé une demoiselle Godard des Marais, qui est l'héritière des cristalleries de Baccara. À l'heure où Baccara devient chinois, il a commencé un peu par la Lozère. Non, c'est pas mal. Ce qui fait qu'après, on m'a raconté que dans les églises lozériennes, on trouvait des restes, des lustres de Baccara.
Alors ça, c'est le rôle de la dame qui est l'épouse du candidat. Elle a la main ouverte, elle distribue de l'argent, des lustres, des vitraux.
Oui, d'ailleurs, dans l'album qu'il distribuait, il y avait une formule. On disait, s'il fallait faire ici la part de nos faveurs, le comte aurait nos voix. La comtesse nos cœurs.
Alors attendez, l'album. Donc au XIXe siècle, Aldebert, sous le Second Empire, il distribue des albums. Les paysans reçoivent des albums à leur nom qui ont été imprimés pour promouvoir Chambrun.
Peut-être pas les paysans, mais c'est-à-dire on frappe par l'image. Et donc on la répète, on la circule, et puis on fait des cadeaux. C'était ça la circulation. Le vicomte de Chambrun qui vient d'abord comme un candidat administratif du pouvoir et qui bascule comme un candidat clérical. C'est sa grande habileté.
Alors ça, c'est Aldebert. Et puis, il y a une grande figure, c'est le marquis Pierre.
Voilà. Alors Pierre revient alors qu'il a passé une enfance aux États-Unis, il récupère l'héritage politique de son parent, et il va à la fois conquérir le fauteuil de député, puis celui de sénateur, avec une ambiguïté politique, c'est-à-dire il est au centre-gauche, s'opposant à une autre grande figure politique qui était les Lascaz. Donc ils s'affronteront à des élections sénatoriales en 1932. Mais voilà, c'était des gens très riches. D'abord parce qu'il avait épousé une Américaine, très fortunée, et Margaret Reeves Nichols. Et donc il distribuait énormément d'argent, etc. Mais il a été un des 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain.
Alors il y a quelque chose qui vous a frappé. Est-ce que c'était des récits d'enfance que vous entendiez? Il circulait dans une voiture.
Oui, alors ça, il avait une superbe voiture qu'on appelait une Viva Stella, qui était un modèle de luxe Renault et qui circulait dans le pays. Et dont je me suis servi d'ailleurs de ce nom d'une voiture pour construire un récit de fiction par ailleurs.
Oui, ça c'est votre dernier livre, c'est Chez les Veilleurs, c'est 8 récits. Dans chacun d'entre eux, on retrouve une Viva Stella. Voilà. Et puis, il y a le fils. Alors le fils s'appelle Gilbert, je ne sais pas si on suit Aldebert, après il y a eu une autre génération, Pierre, et puis alors le fils de Pierre s'appelle Gilbert, et lui, refusant de continuer à servir la diplomatie française pendant l'occupation, il se replie en Lozère, il n'émigre pas, et il roule en...
Viva Stella.
Pendant l'occupation.
C'est-à-dire qu'au début, il faut imaginer ce que c'est, il revient, il redécouvre un peu le pays de son enfance, et il faut organiser la résistance. Et dans une histoire de la résistance d'Henri Cordès, qui est le livre majeur, il raconte comment justement Gilbert de Chambrun monte dans le pays avec cette vivastella qui a été transformée en gazochène pour organiser les réseaux et organiser les maquis qui se mettent en place à ce moment-là.
Mais est-ce vrai, la légende qui court en Lozère, les paysans seraient venus le voir comme les paysans de Vendée sont venus voir Charette pendant la Révolution française, mais là, il s'agissait de lutter pour la liberté. Vous êtes le châtelain, vous devez être le chef du maquis, monsieur le marquis ?
Non, ça j'y crois pas. Il a été un animateur parce qu'évidemment, il a donné du poids par son nom. Mais il faut dire que, du point de vue de Gilbert de Chambrun, que moi j'ai bien connu, il y a un basculement politique, un éveil politique qui se fait à ce moment-là. Et évidemment, il prend conscience, en vérité, des enjeux sociaux. Il me le dira, qui sont à l'origine de la résistance.
Il épousera en 1945 une jeune femme qui est de milieu modeste, qui n'est ni américaine ni propriétaire d'industrie, et qui va devenir une personnalité, comme lui d'ailleurs, proche du Parti communiste. La voici qui témoigne dans un film assez récent, Sans jamais renoncer. Elle a parlé en 2008, peu avant sa disparition, à son petit-fils Axel. Souvenir de maquis par Jacqueline de Chambrun.
Le matin du 11 juin 1944, 4000 soldats allemands se dirigent vers les pentes du Mont Mouchet. Ce sont des soldats aguerris appuyés par des colonnes blindées et de l'artillerie lourde. Il leur faudra moins d'une heure pour enfoncer complètement les défenses du maquis et se présenter face à la compagnie de Jacqueline qui se replie en catastrophe.
Il y en a un. Il reçoit une balle qui lui coupe la fémorale. Il se vide de sang, impossible de faire. On essaie de le transporter. Nous n'avions plus de brancard. Il était beau, il était grand. Et il s'est éteint en haut de la colline en montant.
J'ai changé 100 fois de main. J'ai perdu femme et enfant, j'ai tant d'amis.
Un petit groupe de survivants dont Jacqueline fait partie se réfugie dans une ferme abandonnée, appelée le Sauvage. Un groupe d'une dizaine de combattants sous les ordres du commandant Thomas et de deux capitaines reçoit l'ordre d'arrêter un train en gare de Pradel, en Haute-Loire.
Les deux capitaines qui ont été tués d'une balle dans le cou et dans la tête. Un qui a été tué, qui est resté sur place, et l'autre qui a eu la balle là, qui est venu vers l'arrière. Et alors je suis monté dans ce camion qui ramenait vers le Sauvage. Il était à côté de moi et il saignait partout, tu vois, par la bouche et partout. Et il est mort avant d'arriver au Sauvage. Ce charmant garçon qui était en t-shirt, au début, ses jambes étaient froides et à la fin, j'étais assise sur un cadavre.
Ces maquis auxquels participe sous le nom de lieutenant Noël Jacqueline de Chambrun, c'est en Haute-Loire, Montmouchet comme le Sauvage. Il y avait des maquis en Lozère, au nord, et puis le maquis de Bir Hakeim qui a fait l'objet d'un massacre en 1944. Il se retrouve ensuite, les Chambrun, Jacqueline et Gilbert, et ça va être un duo de crypto-communistes. Enfin, le nom de Jacqueline de Chambrun est maintenant, on le retrouve dans ce qui reste de la banlieue rouge, dans des établissements de pédiatrie. Elle a consacré sa vie à la lutte contre la misère dans les bidonvilles, à la contraception, à la libération des femmes, etc.
Oui, ben c'est évidemment un couple de la résistance. C'était un deuxième mariage pour Gilbert de Chambrun. Et lui, évidemment, comme Dastier de la Vigerie, sera un compagnon de route du Parti communiste. Donc, évidemment, quand il se présentera en Lozère comme député, puis comme maire, il le fera au nom de l'Union de la Gauche. Et c'est ce qui est un déplacement... Enfin, c'est curieux, c'est de voir le déplacement des voix, c'est-à-dire qu'un Chambrun, sur une terre de droite... Un Chambrun de gauche arrive à triompher, à être élu.
Oui, mais c'est aussi parce que il y a plusieurs types de Chambrun. On les retrouve aux quatre coins de l'échiquier politique et l'électeur peut dire, j'ai voté pour Aldebert, j'ai voté pour Gilbert et je vote pour Charles. Alors Charles, dont on va entendre un écho de la voix dans un instant, lui, c'est pas du tout la même tendance politique.
Ah non, pas du tout. Évidemment, il rentre dans la droite classique, UNR, etc. et puis finira député Front National du Gard. Mais pas la la Lozère.
Oui, la Lozère ne l'aurait pas élu si c'était présenté avec le label Front National. Ici, nous sommes à une haute époque encore de Charles de Chambrun en 1968. Les reportages de la télévision régionale gaulliste, Auvergne Actualité. On va le voir inaugurer un établissement pour enfants handicapés, parce que faute d'industrie, la Lozère a quand même de la vertu.
Il est 10h du matin, tout près de Marvejols, dans la Lozère, et un étonnant soleil de décembre accueille M. Maurice Schumann, ministre d'État chargé des Affaires sociales, et Mademoiselle Marie-Madeleine Dienesch, secrétaire d'État aux Affaires sociales, venue inaugurer le centre d'éducation motrice de Montrauda, destiné aux enfants inadaptés et dû à l'initiative de l'association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux que préside le docteur de Framont. Entouré du préfet de la Lozère et de M. de Chambrun, député ancien ministre, M. Schumann a dévoilé la plaque commémorative, puis les personnalités ont écouté divers exposés. Pour M. de Chambrun, qui a pris une part active à cette réalisation, la vocation de la Lozère pour l'éducation de l'enfance inadaptée n'est pas l'effet d'un simple hasard.
Ce centre fait partie de tout un contexte que nous avons pensé et qui créera, je pense, également un foyer intellectuel réfléchissant sur ces problèmes.
Pour Mademoiselle Dienesch, une telle réalisation est très encourageante.
Cet après-midi, nous visitons les réalisations de l'abbé Auziol. Tout cela, justement, commence à faire un tout et c'est là où doit porter demain l'effort des pouvoirs publics.
Alors, ça finit par former un tout parce que c'est une industrie, la vertu.
C'est-à-dire que l'abbé Auziol, dont parle Madame Dienesch, crée une association qui s'appelle le Claude Uni, qui va créer plusieurs établissements. Et donc, il y a une alliance des notables et de l'Église, comme toujours en Lozère, pour justement encadrer à la fois la société et puis développer des moyens spécifiques comme le soin aux handicapés.
Et l'instauration de la sécurité sociale, des indemnités journalières,
bien sûr.
C'est pour ça va fournir un revenu régulier.
Tout à fait. À un moment donné, certains, quand la polémique a enflé, on dit la Lozère, l'industrie des débiles. Voilà, c'est-à-dire parce qu'on a une floraison de création d'établissements, ce qui reste encore aujourd'hui.
C'est le renversement du handicap, c'est d'un département handicapé qui se consacre avec beaucoup de qualité d'ailleurs à cette spécialité. Et puis alors qui dit établissement pour enfants vieillards, il y a aussi les établissements pour malades mentaux. Saint-Alban, c'est bien un sûr. Lieu légendaire. Dit médecin. Alors les médecins.
Les médecins, d'abord, ce ne sont pas n'importe quel médecin. Ce sont des médecins souvent qui sont issus de familles lozériennes, de familles paysannes, qui ont réussi à faire des études de médecine. Donc, ils allient à la fois la connaissance locale et puis leur profession. Et naturellement, ils deviennent l'élu de leur canton, de leur commune. Donc, moi, quand j'ai connu le Conseil général de la Lozère, il n'y avait que des médecins. Docteur Blanc, docteur Durand, docteur Delmas, docteur Botou. C'était une liste de médecins.
On sera bien soigné, disent les électeurs à ce moment-là. Vous pouvez nous raconter en 1986 comment vous avez suivi, je crois que c'était à l'occasion des élections régionales, le docteur Durand et le docteur Blanc,
oui. Alors,
qui pénétraient dans les maisons, à qui d'ailleurs on demandait des diagnostics quand les enfants étaient malades.
Tout à fait. Quand le docteur Durand arrivait, par exemple, dans son canton de Châteauneuf-Randon, il disait, mais j'ai accouché tout le monde, toutes les femmes, dans tous les enfants qui sont ici, je les connais. Et donc, évidemment, c'était un contact politique tout à fait différent. C'est-à-dire, il y avait un lien intime. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez touché les corps, où vous êtes entré dans l'intimité des familles, il y a un lien particulier qui s'est créé et qui se construisait du politique.
C'était un hiver terrible et vous conduisiez la voiture ?
Oui, en 86, parce qu'évidemment, il faut imaginer ce qu'est une caravane électorale. C'est-à-dire, la Lozère, c'est une géographie. Donc, si vous passez de la Margeride à l'Aubrac, dans les Cévennes, pour un candidat, c'est une démarche absolument épuisante. Et donc, celui qui accompagne, à un moment donné, devient le chauffeur. Et j'ai fait le chauffeur de...
Et puis, il y avait tellement de neige, dites-vous, que les charpentes craquaient. Ouais, pour raconter ça dans un bouquin qui est consacré à Jacques Blanc, dont je vous laisse redonner le titre.
Qui s'appelait « Votez tous pour moi ».
Alors, le docteur Jacques Blanc de la Canourgue, conseiller général, puis maire, il conquiert la députation contre un chambrin. D'ailleurs, il y a eu je ne sais combien de chambres qui se sont battus contre Jacques Blanc. Mais il a fini par l'emporter. C'était la relève de la notabilité traditionnelle, mais encore la notabilité. On l'entend ici dans un film de campagne produit par son parti de l'époque, les Républicains indépendants.
Vous avez le temps, comment ça va? Toujours en forme?
Ça va.
Voyez qu'on vient faire un petit tour chez vous.
Voilà, c'est bien.
Et justement, on disait là avec Tichy que moi je suis très très partisan de maintenir toutes ces foires et de s'en sortir, parce que vraiment dans ces pays, si les foires disparaissent,
là, c'est, fini,
c'est la vie qui disparaît, les cafés qui ferment et on s'en sort. Bon, et puis la Lozère, hein, c'est un problème particulier. C'est ce que je me tue à dire à Paris, et d'ailleurs je commence à être entendu un peu. Hein. Parce que figurez-vous, les Parisiens, ils s'imaginent qu'on ne peut pas venir ici au mois de janvier et février. Mais c'est peut-être le plus agréable, le mois de janvier et février. Certes, on a un peu de neige, certes, il y a parfois un peu de tourmente, mais je crois que c'est un des moments où, justement, on peut rencontrer le plus les agriculteurs qui sont beaucoup plus disponibles. J'ai abordé tous les problèmes qui concernent les jeunes agriculteurs.
Oui, d'accord, mais enfin, il y a un problème primordial pour lequel je voudrais quand même intervenir et auquel je voudrais que vous me répondiez, c'est que ici en Lozère, vous avez la majorité des agriculteurs qui ne trouvent pas une épouse et pour cause. Et
oui, on dit partout, on dit toujours que les jeunes agriculteurs ne trouvent pas de femmes.
Oui.
C'est vrai que c'est un problème essentiel, je dirais qu'ils ne trouvaient pas. Enfin, il est bien certain qu'on ne trouvera pas de femmes s'il n'y a pas de l'eau dans nos maisons,
oui,
mais s'il y a de l'eau partout, s'il y a des chemins, s'il y a des téléphones et de l'électricité partout, et si parallèlement, on s'est créé une vie sociale nouvelle pour ces agriculteurs, et bien je suis convaincu, je suis certain que nos jeunes agriculteurs trouveront des femmes.
Il faut quand même du bagout pour oser dire qu'en janvier, février, ce sont les mois les plus agréables.
Ah, mais c'est-à-dire que quand on est candidat, on est capable de dire tout. Hein.
Alors, quand vous regardez maintenant, vous deviniez déjà en suivant cette campagne qu'il y avait un désir de vie facile.
C'est-à-dire il y a le désir d'être comme les autres. Voilà, c'est ça qui est très important. On n'a pas du tout envie
avoir
de...
Avoir des femmes, par exemple, voilà. Quand on est un homme.
Puis avoir les mêmes conditions de vie, avoir le même type d'équipement, la même modernité que les autres.
Le téléphone,
exactement.
Puis le téléphone portable. Alors, quand vous regardez maintenant, avec le recul, 30 ans plus tard, quand vous revenez en Lozère.
Quand je reviens à Lozère, j'ai d'abord du point de vue politique, c'est ça, je reconnais plus grand-chose, parce qu'évidemment, il y a eu un effacement des notables, une disparition. Toutes ces lignées, tous ces docteurs ont complètement disparu de la représentation.
On peut prendre un exemple important à Marvejols, la ville que les Chambrins habitent encore, mais ont délaissé, dont ils ne sont plus les élus. Il y a eu une dynastie Rougeon, de moindre qualité, entre guillemets, qui avait duré, et puis il y a très peu, on a retrouvé l'ancien maire Rougeon pendu.
Oui, alors moi j'ai envie de dire les vers d'Éluard, vous savez, qui avait été repris par Pompidou. Qu'on prenne qui voudra, moi mon remords, c'est Jean Rougeon en ce moment. C'est parce que d'abord je l'ai connu, et puis parce que je trouve que son suicide a été quand même un désastre collectif dont on n'a pas assez tiré les conséquences. C'est la fin d'une lignée, c'est la fin d'un mode de gestion, c'est peut-être aussi un homme qui s'est trompé sur ses capacités, il n'était pas fait pour être un notable peut-être, voilà, je sais pas. Mais il y a eu cette mort de cet homme qui est aussi une crise terrible pour cette ville de Marvejols et qui sonne en quelque sorte comme un glas.
Et puis il y a les préfets qui ne sont plus des préfets.
Alors les préfets, évidemment, il y a eu deux problèmes. Une qui a été accusée et condamnée pour vol de mobilier public. Et le suivant, pour des affaires politiques liées à ses positions antérieures.
Obligé de partir, il avait été le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, obligé de partir un peu en désordre. Alors c'est l'extraordinaire qui disparaît.
C'est la banalisation, c'est-à-dire ce territoire qui était un territoire extraordinaire du point de vue de son identité, et puis aussi du point de vue de sa représentation politique, est devenu un territoire ordinaire. C'est-à-dire que c'est les mêmes fonctionnaires qui accèdent à des mandats électoraux. C'est des gens qui sont comme partout ailleurs. Donc il n'y a plus ces lignées, il n'y a plus ces dynasties politiques. Plus de Chambrun, plus de Lascaz, plus de Framont, etc.
Oui, mais peut-être un élargissement du champ des éligibles.
Oui, certainement. Bon, il y a encore des jeux locaux. Mais en vérité, évidemment, ce sont devenus des techniciens du local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique, c'est ça. C'est avec des ressources qui sont quand même très, très, très restreintes et très pauvres.
Il y a 78 000 habitants et pas davantage en Lozère, peut-être même un petit peu
moins.
Oui,
76 000, oui, ouais, plutôt.
Je suis un peu optimiste. Merci à vous. Votre livre, Viva Stella, c'est chez L'Éveilleur. Et Les Maîtres de Granit, c'est chez Talendier. Cette émission était préparée par Ilinka Negulesco. avec à la technique Ludovic Asselot, à la réalisation Valérie Estaraï. Et chez vous, Mathieu Bidard.
Ce pourrait être un éloge du ver de terre, Jean, dans un instant, manifeste pour une agriculture durable.
Merci à vous dans la tête au carré, juste après les informations.